Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 115, Daf Kuf Tet Vav. Bonne écoute et bon limoud.
Pessah Besharim Otashana, le Korban Pessah tout au long de l'année, donc lorsque ce n'est pas Erev Pessah après-midi, Deeno Kasher Lishmo, alors qu'il n'est pas valable au nom de ce sacrifice, au nom d'un Korban Pessah, Vekasher Shelo Lishmo, alors qu'il est valable au nom d'un autre sacrifice. L'Agma répond, Pessah Besharim Otashana, Shlamim Ninhu, le Korban Pessah tout au long de l'année a le statut d'un Korban Shlamim. Donc en fait, il est valable au nom d'un Korban Shlamim. Et lorsqu'il est sacrifié au nom d'un autre sacrifice, il est aussi valable en tant que Korban Shlamim. Mais dans la situation où le sacrifice n'est pas du tout valable, comme le cas du Korban Hasham, lorsque le propriétaire ne peut pas encore l'offrir, il n'y a pas de situation où ce sacrifice serait valable au nom d'un autre sacrifice. Nous avons fini ici le shiur de Masechet Zvachim, Daf Kuf Yud Dalet. Nous commençons le shiur de Masechet Zvachim, Daf Kuf Tet Vav, à la troisième ligne du haut de la page. Nous avons vu au début de la Masechet une discussion entre les Chachamim et Rabbi Eliezer, à savoir, si une personne sacrifie un Korban Hasham au nom d'un autre sacrifice, selon les Chachamim, le sacrifice est valable en tant que sacrifice facultatif, mais le propriétaire doit en offrir un autre pour le remplacer, tandis que selon Rabbi Eliezer, le sacrifice est invalidé. D'autre part, nous avons vu dans notre Mishnah que celui qui offre un Korban Hasham à l'extérieur du sanctuaire alors que son propriétaire ne peut pas encore le sacrifier car il n'est pas encore purifié, il n'a pas transgressé l'interdiction étant donné qu'il n'aurait pas été valable s'il avait été offert dans le sanctuaire. En là-dessus, nous avons vu une discussion entre Rav Chilkiya Bar Tuvi et Rav Huna. Selon Rav Chilkiya Bar Tuvi, ceci ne s'applique que s'il a offert en son nom, c'est-à-dire au nom d'un Korban Hasham, mais s'il l'a offert au nom d'un autre sacrifice, étant donné qu'il aurait été valable dans le sanctuaire, il a transgressé une interdiction. Tandis que Rav Huna dit, puisqu'il n'est pas valable en son nom, c'est-à-dire lorsqu'il est sacrifié en tant que Korban Hasham, il ne peut pas être valable dans le sanctuaire s'il est offert au nom d'un autre sacrifice. Par conséquent, même s'il l'offre à l'extérieur du sanctuaire, il n'a pas transgressé l'interdiction. Alors la Gemara dit, Lema Messayale, peut-être que la Braïta suivante supporte l'opinion de Rav Chilkiya Bar Tuvi. Cette Braïta se trouve dans le recueil de Braïtot qui interprète les psukim dans Vaïkra. Cette Braïta interprète les psukim dans Vaïkra Yudzaïn concernant l'interdiction de sacrifier le sacrifice à l'extérieur du sanctuaire. Elle commence donc par exclure de cette interdiction les différents sacrifices invalidés, comme nous l'avons vu dans les dapim précédents. La Braïta poursuit. Yachol she'ani motzi af olat mechusar zman beba'alim. Peut-être que j'exclus aussi de cette interdiction même le korban olah dont le moment pour l'offrande n'est pas encore arrivé car son propriétaire ne peut pas encore l'offrir. Ve'asham nazir ve'asham metzora, et le hasham qui doit être offert par l'abstinent après la période d'abstinence, ou bien celui qui doit être offert par le lépreux après sa purification s'il a une invalidité quelconque, l'Agmar expliquera. Talmud Lomar, c'est pour cela que le Passouk dit dans Vaikra Yudzaïn, celui qui offre à l'extérieur du sanctuaire un sacrifice, donc un taureau, un mouton ou une chèvre, cette précision du genre de l'animal est superflue, car nous savons que les sacrifices ne peuvent être que le taureau, le mouton ou la chèvre. Nous apprenons de là, Shor Mikol Makom, le taureau quel qu'il soit, le Kesev Mikol Makom, le mouton quel qu'il soit, Ez Mikol Makom, la chèvre quelle qu'elle soit, c'est-à-dire même s'il y a une invalidité. Cela s'applique donc pour ces sacrifices, comme le Korban Olah, dont le moment n'est pas encore arrivé pour son offrande, car son propriétaire ne peut pas encore l'offrir, car finalement, il pourrait être valable en tant que sacrifice facultatif. Et aussi, le Korban Hasham mentionné par la Braïta. En la Gemara constate, Ve'ilu Khatat Shaira, la Braïta a omis de citer le Korban Khatat, invalidé de la même manière. En la question se pose, Bemaeskinan, de quoi s'agit-il, de quel type d'invalidité s'agit-il? Il est Mambizmano, si tu veux dire qu'il s'agit d'un sacrifice offert en son temps, c'est-à-dire lorsque le propriétaire peut déjà l'offrir, et il a été sacrifié au nom de ce sacrifice, donc au nom du Korban Hasham, Ma'iri Hasham. Pourquoi est-ce que la Braïta a besoin d'inclure uniquement le Korban Hasham, Afilu Khatat Nami, même le Korban Khatat pour être inclus, car finalement ils sont valables à l'intérieur. Il n'y a même pas besoin d'ailleurs de pasouk spécial pour les inclure. Et là, plutôt, nous lisons selon la Shita Mkoubetset, chez l'Obizmano, il s'agit d'une situation où le moment pour leur offrande n'est pas encore arrivé. Ubemai, et de quel cas s'agit-il? Il est malishmo, s'il s'agit d'une situation où il l'a offert au nom de ce sacrifice, donc au nom du Korban Hacham. Hacham, Amai Chayav, pourquoi s'est-il rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction pour avoir offert ce Korban Hacham en dehors du sanctuaire alors que le moment pour son offrande n'est pas encore arrivé? Finalement, il n'est pas valable dans le sanctuaire. Et la lave, n'est-ce pas donc chez l'Olishmo? Il s'agit d'une situation où il l'a sacrifié au nom d'un autre sacrifice. Effectivement, s'il s'agit d'un korban khatat, qui est invalidé s'il est sacrifié de cette manière dans le sanctuaire, il n'a pas transgressé l'interdiction. Mais puisqu'il s'agit d'un korban hacham, étant donné qu'il aurait été valable s'il avait été sacrifié dans le sanctuaire au nom d'un autre sacrifice, lorsqu'il l'a sacrifié à l'extérieur, il a aussi transgressé une interdiction. C'est donc une preuve pour l'opinion de Rav Chilkiya Bar Tuvi. L'Agma réfute Leolam Bizmano Veshelolishmo. Toujours pourrais-je te dire qu'il s'agit d'une situation où il a sacrifié le Korban Hacham en son temps, c'est-à-dire lorsque son propriétaire peut déjà l'offrir, mais au nom d'un autre sacrifice. Cependant, au moment où il le sacrifie à l'extérieur, en fait, il aurait pu être sacrifié dans le sanctuaire, et ce, au nom propre du sacrifice. Lorsqu'il sacrifiait au nom d'un autre sacrifice, cette invalidité ne prend pas effet et ce n'est pas une raison pour l'exempter de l'interdiction de sacrifier un sacrifice en dehors du sanctuaire. Et effectivement, il n'y a pas de différence entre le Korban Hacham et le Korban Khatat, c'est-à-dire même s'il sacrifie un Korban Khatat à l'extérieur du sanctuaire au nom d'un autre sacrifice, il a aussi transgressé une interdiction. Cependant, la raison pour laquelle la Braïta ne l'a pas précisé, c'est parce que Rabbi Eliezeri, l'auteur de la Braïta, c'est Rabbi Eliezer de Amar qui dit « Makshinan Hacham le Khatat ». Nous comparons les lois du Korban Hacham à celles du Korban Khatat, c'est-à-dire comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, nous apprenons des lois concernant le Korban Khatat que celui qui sacrifie un Korban Hacham en nom d'un autre sacrifice, celui-ci est invalidé. Donc puisqu'ils sont liés, l'auteur de la Braïta s'est contenté de ne mentionner que le Korban Hacham, car Vetana Tafel, l'auteur de la Braïta a mentionné le secondaire, c'est-à-dire celui que nous avons appris du Korban Khatat, voie Dinikar, et il en sera de même pour la source de l'enseignement qui est le Korban Khatat. Donc pour tous les deux, s'ils sont sacrifiés au nom d'un autre sacrifice à l'extérieur du sanctuaire, la personne a transgressé une interdiction. Et c'est cela que la Braïta vient nous enseigner. On ne peut donc pas prouver de la Braïta que celui qui sacrifie un Korban Hacham à l'extérieur du sanctuaire, alors que le moment pour son offrande n'est pas encore arrivé car son propriétaire ne peut pas encore le faire, au nom d'un autre sacrifice, qu'il a transgressé une interdiction et que ce sacrifice aurait pu être valable s'il était sacrifié de cette manière dans le sanctuaire. La Gemara dit, Tashma, viens, écoute une preuve d'un autre passage de cette Braïta. Il s'agit du début de la Braïta que nous avons rapporté précédemment. Alors après avoir exclu différents types de sacrifices invalidés de l'interdiction d'offrir un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire, nous devons lire selon Rashi, Yachol She'eni Motsi Olat Mechusarzman Begufa. Se peut-il qu'on n'exclue pas de cette interdiction le Korban Ola dont le moment n'est pas arrivé pour son offrande, car le sacrifice lui-même ne peut pas être sacrifié, par exemple, n'a pas atteint le 8e jour après sa naissance, Vechatat Ben Begufa Ben Bebalim, ou bien le Korban Khatat dont le moment n'est pas arrivé pour son offrande, soit à cause de lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint l'âge réglementaire pour son offrande, soit parce que le propriétaire ne peut pas encore le sacrifier car il ne s'est pas encore purifié. Talmud Lomar, c'est pour cela que le Pasuk dit, toujours dans Vaikra Yudzaïn, Bel Petach Ohel Moed, etc. Et il ne l'a pas amené devant la porte du sanctuaire. Nous apprenons de là, Kol She'eno Ra'ui Lavo Bel Petach Ohel Moed, tout sacrifice qui n'est pas apte à être amené devant la porte du sanctuaire pour être sacrifié, En Chayavim Alehem, on ne se rend pas coupable pour leur offrande à l'extérieur du sanctuaire. Donc, ces sacrifices dont le moment n'est pas encore arrivé pour leur offrande, et qui ne sont pas valables dans le sanctuaire en toutes circonstances, celui qui les sacrifie à l'extérieur n'a pas transgressé l'interdiction. Alors l'Agmara constate, « Ve'ilu Hacham Shaira ». La Braïta a omis de mentionner le Korban Hacham dans la même situation. Alors la question se pose, « Ve'mayaskinan, de quel cas s'agit-il ? Il est malishmo s'il s'agit d'une situation où il a été sacrifié au nom de ce propre sacrifice, c'est-à-dire par exemple au nom d'un Korban Hacham. Hacham Nami Lifteré, le Korban Hacham aurait dû être aussi exempté de cette interdiction s'il a été sacrifié alors que le moment n'est pas arrivé pour le faire. Et la lave, n'est-ce pas donc chez l'Olishmo qu'il s'agit d'une situation où il a été sacrifié au nom d'un autre sacrifice. Et c'est donc cela la différence entre le Korban Khatat et le Korban Hasham. Lorsqu'il s'agit d'un Korban Khatat qui est sacrifié à l'extérieur du sanctuaire alors que le moment pour son offrande n'est pas encore arrivé, car le propriétaire ne peut pas encore l'offrir, même s'il est sacrifié au nom d'un autre sacrifice, étant donné que s'il avait été sacrifié de cette manière dans le sanctuaire, il aurait été invalidé. Donc, en aucune manière, il aurait pu être accepté dans le sanctuaire. Lorsqu'il est sacrifié à l'extérieur du sanctuaire, la personne n'a pas transgressé l'interdiction. Mais s'il s'agit d'un korban hasham qui aurait pu être valable s'il avait été sacrifié au nom d'un autre sacrifice dans le sanctuaire, s'il est sacrifié de cette manière à l'extérieur du sanctuaire, même si le moment pour son offrande n'est pas encore arrivé, car le propriétaire ne peut pas encore l'offrir, la personne qui l'a fait a transgressé une interdiction, et ce, en accord avec l'opinion de Rav Hilkiah Bar Tuvi. La Gemara réfute, Leolam Shelo Lishmo, toujours pourrais-je te dire que la Braïta effectivement parle d'une situation où le sacrifice a été sacrifié au nom d'un autre sacrifice. Mais en fait, lorsqu'elle a mentionné le Korban Khatat, ce n'était pas pour exclure le Korban Hasham. Au contraire, de même que si le Korban Khatat est sacrifié à l'extérieur du sanctuaire au nom d'un autre sacrifice, alors que le moment pour son offrande n'est pas encore arrivé, celui qui l'a fait n'a pas transgressé l'interdiction, étant donné que de toute façon, il est invalidé, il en est de même s'il s'agit d'un Korban Hasham. Ve Rabbi Eliezeri, et l'auteur de la Braïta, c'est Rabbi Eliezer, de Makish Hasham Lechatat, qui compare les lois du Korban Hasham à celles du Korban Khatat par la juxtaposition du Pasuk. Et nous apprenons que de même que lorsque le Korban Khatat est sacrifié au nom d'un autre sacrifice, celui-ci est invalidé. Lorsque le Korban Hasham est sacrifié au nom d'un autre sacrifice, il est aussi invalidé. C'est pourquoi, s'il est sacrifié de cette manière à l'extérieur du sanctuaire, donc au nom d'un autre sacrifice, alors que le moment pour son offrande n'est pas encore arrivé, celui qui l'a fait n'a pas transgressé l'interdiction, étant donné qu'il ne peut pas être valable de cette manière dans le sanctuaire. Et la raison pour laquelle l'auteur de la Braïta a omis de mentionner le Korban Hasham, c'est parce que Tana Ikar, l'auteur de la Braïta, a mentionné la source de l'enseignement qui est le Korban Khatat, Ve Kol Shekel Et Tafel, et à plus forte raison qu'il en sera de même pour le secondaire, donc le Korban Hasham, que nous déduisons des lois du Korban Khatat. Comme le précise Rashi, il ne s'agit pas réellement d'un raisonnement fortiori par le moyen duquel nous apprenons la loi concernant le Korban Hasham des lois concernant le Korban Khatat, mais il s'agit plutôt d'une comparaison simple que l'on applique par la juxtaposition du Pasuk. La Gemara dit, Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta, de Chiata Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu d'Eret Israël, Amar il a dit, Tana de Berabi Levi, il a été enseigné dans le Beta Midrash de Rabbi Levi, Yachol Shani Motzi Af Olat Mechusar Zman Bebaalim, il se peut que j'exclue de cette interdiction d'offrir des sacrifices à l'extérieur du sanctuaire, même un korbanola dont le moment de l'offrande n'est pas arrivé, car son propriétaire ne peut pas encore l'offrir, étant donné qu'il ne s'est pas encore purifié, Hasham Nazir Vasham Metzora, ou bien le korban Hasham que doit offrir l'abstinent après la période d'abstinence, ou bien celui qui doit offrir le lépreux après sa purification, s'il a une invalidité quelconque. Nous lisons selon la Shittam Kubetset, donc Ravdimi poursuit, Venasivla Talmuda Lechiyuva, et il a amené un pasouk pour prouver que celui qui offre ses sacrifices à l'extérieur du sanctuaire a transgressé une interdiction, Veloyadana Mai Talmuda, et je ne sais pas quel est le pasouk qu'il a amené pour prouver qu'il s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction. Nous poursuivons toujours selon la Shittam Kubetset, Amar Ravina, Amai Loyadat, pourquoi ne sais-tu pas de quel pasouk nous apprenons que pour l'offrande de ses sacrifices à l'extérieur du sanctuaire, une personne se rend coupable d'avoir transgressé une interdiction? La réponse est claire. C'est du fait que le pasouk dit dans Vaikra Yudzaïn, celui qui offre un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire, un taureau, un mouton ou une chèvre, alors qu'il est évident que c'est les seuls animaux qui peuvent être offerts comme sacrifice, nous pouvons donc interpréter le pasouk de la manière suivante. Shor mikol makom, un taureau, quel qu'il soit. Kesev mikol makom, un mouton, quel qu'il soit. Ez mikol makom, une chèvre, quelle qu'elle soit. Donc, n'importe quel type de sacrifice, même s'il est atteint d'une invalidité, mais il existe une manière de pouvoir l'offrir à l'intérieur du sanctuaire, celui qui l'offre à l'extérieur, s'est rendu coupable d'avoir transgressé une interdiction. Cette braïta est donc la même que nous avons vue en premier. Et la question se pose, comme nous l'avons vu précédemment, du fait que l'auteur de la braïta a omis de mentionner le korban khatat, atteint d'un type d'invalidité. Il s'agit forcément donc d'une situation où ce korban hasham est sacrifié à l'extérieur du sanctuaire alors que le moment pour son offrande n'est pas arrivé, et il l'a sacrifié au nom d'un autre sacrifice. Et c'est donc cela la différence entre le Korban Hacham et le Korban Khatat. Le Korban Hacham, qui lui peut être valable à l'intérieur du sanctuaire s'il est sacrifié au nom d'un autre sacrifice, lorsqu'il est sacrifié à l'extérieur du sanctuaire, une personne se rend coupable d'avoir transgressé une interdiction. Et ce, même si le moment de son offrande n'est pas encore arrivé. Mais s'il s'agit d'un Korban Khatat, qui de toutes les manières ne peut pas être sacrifié au nom d'un autre sacrifice, si on le fait, le sacrifice est invalidé. Par conséquent, s'il est sacrifié à l'extérieur du sanctuaire avant que le moment de son offrande soit arrivé, cette personne n'a pas transgressé d'interdiction. C'est donc une preuve pour l'opinion de Rav Chilkiya Bar Tuvi. Alors la Gemara demande, nous lisons selon la Shita Mukubetzet, Umay Kashia, quelle est la question que tu poses sur l'opinion de Rav Huna à partir de cette Brita? Dilma Kedeka Amart, peut-être que nous pouvons répondre comme nous l'avons fait précédemment. Nous pourrions donc toujours dire que si une personne offre un Korban Hacham au nom d'un autre sacrifice alors que le moment de son offrande n'est pas arrivé, il est invalidé puisqu'il ne peut même pas être offert au nom de ce sacrifice, donc de ce Korban Hacham, comme le dit Rav Huna. Et en fait, la Braïta parle d'une situation où le Korban Hacham a été sacrifié alors que le moment de son offrande est arrivé, à l'extérieur du sanctuaire, et cela au nom d'un autre sacrifice. Et en fait, il n'y a pas de différence entre le Korban Hacham et le Korban Khatat, car l'auteur de la Braïta suit l'opinion de Rabbi Eliezer, qui les compare, comme nous l'avons dit précédemment. Et donc, le chidouche de cette Braïta est de dire que puisque le sacrifice, avant d'être sacrifié, peut être sacrifié dans le sanctuaire au nom du sacrifice, même lorsqu'il est sacrifié à l'extérieur du sanctuaire au nom d'un autre sacrifice, ceci ne consiste pas une invalidité, et donc cette personne a transgressé une interdiction. Alors l'Agma répond, nous lisons selon la Shita Mukubetzet, Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, la raison pour laquelle on a apporté cette braïta comme preuve pour l'opinion de Rav Chilkiya Bar Tuvi, c'est Mishum de Kashiale de Tane de Berabi Livai à de Tane Levi. C'est parce que Rav Dimi a opposé cette braïta enseignée dans le Beta Midrash de Rabbi Livai à une autre braïta enseigné par Lévi. La deuxième braïta dit comme suit, Hacham Nazir va Hacham Metzora, un korban Hacham offert par l'abstinent à l'issue de la période d'abstinence qu'il a observée, ou celui offert par le lépreux après sa guérison, chez Shartan, chez Lolishman, qui ont été sacrifiés au nom d'un autre sacrifice, Ksherim, ils sont valables, Velo Alou le Baalim Shumkhoba, mais leurs propriétaires ne se sont pas rendus quittes de l'obligation d'offrir ce sacrifice, ils devront donc en offrir un autre pour le remplacer. Shartan mechusarzman bebaalim. Mais s'il les a sacrifiés alors que le moment de leur offrande n'était pas arrivé car leur propriétaire n'était pas encore arrivé au stade où il pouvait déjà offrir ce sacrifice, oshayub nechte shanim. Ou bien si ces moutons étaient âgés de 2 ans alors qu'ils doivent être impérativement dans leur première année, veshartan et il les a sacrifiés ainsi, psulim, ils sont invalidés. Il est évident que s'ils sont invalidés, lorsqu'on les sacrifie à l'extérieur du sanctuaire, la personne qui l'a fait n'a pas transgressé d'interdiction. Rav Dimi met donc en opposition les deux braïtot. Forcément, à l'origine, Rav Dimi a compris qu'il s'agissait du même cas. Donc, dans la première braïta, il est enseigné que celui qui sacrifie le korban hacham de l'abstinent ou celui du lépreux à l'extérieur du sanctuaire alors que le moment de son offrande n'est pas encore arrivé a transgressé une interdiction. Tandis que dans la seconde braïta, nous voyons que s'ils sont sacrifiés dans le sanctuaire, ils sont invalidés. Forcément, donc, s'ils sont sacrifiés à l'extérieur du sanctuaire, la personne n'a pas transgressé l'interdiction. Ou Meshane, Rav Dimi répond là-dessus, la Kashia, il n'y a pas de contradiction entre les deux Braïtot. Kan, dans la seconde Braïta, Lishmo, il s'agit d'une situation où ce Korban Hacham a été sacrifié au nom de ce sacrifice, donc d'un Korban Hacham. C'est pourquoi il est invalidé. Et s'il est sacrifié à l'extérieur du sanctuaire, la personne n'a pas transgressé l'interdiction. Kan, ici, dans la première braïta chez l'Olishmo, il s'agit d'une situation où il a été sacrifié au nom d'un autre sacrifice. Dans ce cas, s'il avait été sacrifié dans le sanctuaire, il aurait été valable. Et lorsqu'il est sacrifié à l'extérieur du sanctuaire, la personne a transgressé une interdiction. En tout cas, nous voyons que Rav Dimi a compris la première braïta ainsi, ce qui est donc une preuve pour l'opinion de Rav Chilkiya Bar Tuvi. Rav Ashi Rameh Matnitin Abraita. Rav Ashi oppose notre Mishnah la seconde Braïta. En effet, dans notre Mishnah, il est enseigné que celui qui sacrifie le Korban Hacham de l'abstinent ou celui du lépreux à l'extérieur du sanctuaire alors que le moment de son offrande n'est pas encore arrivé, n'a pas transgressé l'interdiction. Tandis que dans la première Braïta, celle qui a été enseignée par Rabbi Livaï, il est enseigné que celui qui offre ses sacrifices à l'extérieur du sanctuaire a transgressé une interdiction. Ou Meshane, et il répond à cette contradiction. Kan, dans la Mishnah, l'Ishmo, il s'agit d'une situation où ses sacrifices ont été sacrifiés au nom de ce sacrifice, donc du Korban Hacham. Par conséquent, puisqu'ils ne peuvent pas être valables dans le sanctuaire, s'ils sont sacrifiés à l'extérieur du sanctuaire, la personne n'a pas transgressé l'interdiction. De Kan, tandis qu'ici, dans la première Braïta, chez l'Olishmo, il s'agit d'une situation où ces sacrifices ont été sacrifiés au nom d'un autre sacrifice, étant donné qu'ils auraient été valables à l'intérieur du sanctuaire, celui qui les a sacrifiés à l'extérieur du sanctuaire a transgressé une interdiction. En lema tehavet yuvteh de Ravuna, dira-t-on que cet enseignement de Rav Dimi est une réfutation de l'opinion de Ravuna? L'Agma répond, Amar lecha Ravuna, hacha bema eskinan, ici, de quoi il s'agit dans cette braïta dont nous parlons, que gon sheifrish tehashamot lacharayut, il s'agit d'une situation où cette personne a désigné deux animaux comme Korban Hacham pour que l'un serve de garantie pour l'autre, c'est-à-dire que si un se perdait, on sacrifierait l'autre. Dans cette situation, de chad minayhu meikara olahi. À l'origine, un de ces deux sacrifices était d'office désigné comme Korban Ola, car il est impossible d'offrir de Korban Hacham.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Tournons la page à Dav Kuf Tet Vav Amud Bet. Ked Rav Huna Amarav. Nous appliquerons ici l'enseignement de Rav Huna au nom de Rav. De Amar Rav Huna Amarav. Hacham Shenitak Liria. Un Korban Hacham qui a été détaché de son aptitude d'être offert comme sacrifice pour être mis au pâturage. Comme dans le cas où le Korban Hacham s'est perdu et un autre de remplacement a été sacrifié. Lorsqu'on retrouve le premier, il ne peut plus être offert comme sacrifice, mais plutôt il doit paître jusqu'à ce qu'il devienne infirme, puis il est vendu, et avec le produit de la vente, on offre un korban ola. Or, une fois qu'il a été décidé que ce sacrifice sera envoyé au pâturage, veshachatostam, et il a sacrifié sans aucune intention, alors qu'il était parfait, c'est-à-dire il n'avait pas encore d'infirmité, kasher le ola, ce sacrifice est valable, et il est accepté en tant que korban ola, puisque c'est à ce sacrifice qu'il devait aboutir. Dans l'autre cas, où il avait désigné deux animaux pour le Korban Hacham, et un d'eux serait forcément désigné à être envoyé au pâturage jusqu'à ce qu'il devienne infirme et qu'on le vende pour offrir ensuite un Korban Ola. Alors si un de ces sacrifices est offert à l'extérieur du sanctuaire au nom d'un autre sacrifice, nous considérons que c'est celui-ci qui devait être offert comme Korban Ola, et il est effectivement transformé en Korban Ola. Par conséquent, il aurait été accepté dans le sanctuaire en tant que Korban Ola, peu importe s'il a été sacrifié comme tel ou non, puisque c'est ainsi, s'il est sacrifié à l'extérieur du sanctuaire, la personne qui l'a fait a transgressé une interdiction. Mais en général, lorsque le Korban Hacham est sacrifié avant que le moment de son offrande est arrivé, il est invalidé, selon Rav Huna, même s'il a été sacrifié au nom d'un autre sacrifice. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Hama'ale mi besar chatat » etc. Celui qui offre sur un autel extérieur de la viande d'un korban chatat destiné à la consommation, etc. n'a pas transgressé l'interdiction. La Gemara dit là-dessus « Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta. Minayin lema'ale mi besar chatat » D'où sait-on que celui qui offre sur un autel extérieur de la viande d'un korban chatat qui lui est destiné à la consommation ou mi besar hacham ou bien de la viande d'un korban hacham lui aussi destiné à la consommation ou bien de la viande d'un sacrifice d'une sainteté suprême, comme le Korban Shlamim, qui offre les pains spéciaux offerts à l'occasion de la fête de Shavuot. Cette viande est aussi destinée à la consommation. Ou bien de la viande d'un sacrifice d'une sainteté légère destinée à la consommation. Ou bien des restes de l'offrande à base d'orge que l'on offre le deuxième jour de Pessah pour permettre la nouvelle récolte à la consommation. Ou bien celui qui consomme les deux pains spéciaux offerts à l'occasion de Shavuot, ou bien les pains spéciaux que l'on place sur la table qui se trouve dans le sanctuaire et qui sont destinés à la consommation tous les Shabbats, Veshiare Menachot, ou bien les restes d'offrandes à base de farine après qu'on ait effectué les prélèvements chez Patour, d'où sait-on que cette personne est exemptée, n'a pas transgressé l'interdiction? D'avoir été à répondre, Talmud Lomar, c'est pour cela que le Passouk dit Ola. Le Passouk parle d'un Korban Ola, destiné entièrement à être brûlé sur l'autel. Ma Ola, de même que le Korban Ola, Shehiru Yale Ala, qui est apte à être offerte entièrement sur l'autel pour être brûlé. Afkol, ainsi, tout sacrifice ou partie de sacrifice sera concerné par cette interdiction, Shiruya Lehala, à la condition qu'il s'agisse d'une partie d'un sacrifice destiné à être offerte sur l'autel. Donc comme le prélèvement des offrandes à base de farine ou les graisses des différents sacrifices. Minayin She'af Hayotzek, d'où sait-on que même celui qui verse l'huile dans l'offrande à base de farine, Vehabolel, ou bien celui qui pétrit la pâte, donc de l'offrande à base de farine, Vehapotet, ou celui qui émiette les pains de l'offrande à base de farine, Vehamoleach, ou bien celui qui sale les sacrifices, Vehamenif, ou bien celui qui balance l'offrande à base de farine en direction des quatre points cardinaux et vers le haut, vers le bas, Vehamagish, ou bien celui qui approche l'offrande à base de farine au coin d'un autel extérieur, Vehamesader Ashulchan, ou bien celui qui arrange la table, c'est-à-dire celui qui place les pains sur une table, et ce, à l'extérieur du sanctuaire, Vehametiv Etanerot, ou bien celui qui prépare les lampes à l'allumage, Vehakometz, ou bien celui qui effectue le prélèvement de l'offrande à base de farine, Vehamekabel, ou bien celui qui recueille le sang d'un sacrifice, Bachutz, tout cela à l'extérieur du sanctuaire chez Patour, qu'il est exempté, qu'il n'a pas transgressé l'interdiction. Là-bas est ta réponse. Talmud Lomar, c'est pour cela que le Passouk dit dans Vaikra Yudzaïn, Asher Ya'ale Ola Ozavach, celui qui fait monter sur un autel extérieur un Korban Ola ou tout autre sacrifice. Ma Ha'ala'a Shehigmar Avoda, de même que l'offrande sur l'autel a cela de particulier, c'est qu'il s'agit d'une fin de série d'action de l'offrande d'un sacrifice. Afkol, ainsi, tout type de service, chez Hugmar Avoda, qui est une fin de série d'actes du service de l'offrande d'un sacrifice, sera concerné par cette interdiction. Nous excluons ce que nous avons énuméré plus haut, qui sont des parties de service, mais qui ne sont pas une fin de série. Mais nous pourrons inclure, par exemple, celui qui verse les libations sur un autel, ou celui qui offre l'encens sur l'autel, etc., qui sont des fins de série des actes de l'offrande des différents sacrifices. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Al chelo ukama mishkan » etc. Avant que ne soit érigé le sanctuaire dans le désert, les autels privés étaient permis et le service était effectué par les aînés. Nous avons omis de l'expliquer dans la Mishnah que comme le souligne le Tiferet Israël sur la Mishnah, c'est uniquement lorsqu'il s'agit de sacrifices publics que c'était les aînés qui devaient le faire, comme le cas que nous verrons dans le Passouk présenté par la Gemara. Mais lorsqu'il s'agit de sacrifices privés, n'importe qui pouvait les offrir, car il n'existe pas d'exigence qu'un Kohen effectue le service sur un autel privé. Alors la Gemara dit là-dessus, Yativ Rav Huna bar Rav Katina Kameh de Rav Chisda. Rav Huna, fils de Rav Katina, était assis devant Rav Chisda. Nous lisons selon Rashi, Viativ Rav Chisda ve Kaamar, et Rav Chisda était assis et disait, il lisait donc le passouk dans Shemot Kavdalet, concernant les sacrifices publics que Moshe Rabbeinu a fait offrir alors que les Bnei Israël s'apprêtaient à recevoir la Torah. Le passouk dit, Vaishlach et Naare Bnei Israël, et il a envoyé les jeunes des Bnei Israël, apparemment pour offrir les sacrifices, il s'agissait des aînés. Amarle, Rav Huna lui a dit, Hachi Amar Rav Asi, ou Pascou. Et c'est le dernier jour que les aînés ont effectué le service, car après que les Bnei Israël ont reçu la Torah, c'est les Kohanim qui ont été nommés pour effectuer le service des sacrifices publics. Savar le Utuve Mimatnitin, Rav Chisda a pensé lui opposer notre Mishnah, qui dit clairement que les aînés ont effectué le service jusqu'à ce que le sanctuaire a été érigé dans le désert. Shameh de Kaamar Mishme de Ravada Barava. Il a entendu encore que Rav Huna disait au nom de Rav Adabar Ava la chose suivante. Ola chez Écrivou Israël Bamidbar, le Korban Ola que les Bnei Israël ont offert dans le désert, avant l'érection du sanctuaire, Ena Touna Efchet Benitoar, n'avait pas besoin d'être dépecé et d'être découpé avant d'être offert sur l'autel. Otveh Braita de Shavia Bekulhu, il a décidé de lui opposer une Braita qui est valable pour tous les enseignements, autrement dit, pour réfuter ces deux enseignements de Rav Huna. En effet, Détania, il est enseigné dans une Braita, Achelo Kama Mishkan, avant que le sanctuaire ne soit érigé dans le désert, Habamot Mutarot, les hôtels privés étaient permis, Vavoda Bebhorot, et le service des sacrifices publics était effectué par les aînés. Vakol Ksherim Laakriv, et tous les types d'animaux étaient valables pour être offerts comme sacrifice, c'est-à-dire Behema, Chaya, Veof, soit des animaux domestiques, soit des bêtes sauvages, soit des oiseaux, Zecharim Unkevot, soit mâles, soit femelles, Tmimim ou Balemumim, soit parfaits, soit infirmes, Tehorim, mais à la condition qu'ils soient purs, c'est-à-dire permis à la consommation, Aval Lotmeim, mais non pas s'ils sont impurs, interdits à la consommation. Vehakol Karvu Olot, et tous les sacrifices offerts avant l'érection du sanctuaire dans le désert, c'était uniquement des korban ola. Ve ola sheikrivu Israël bamidbar, et le korban ola que les bnei Israël ont offert dans le désert, tuna efshet venitoar, nécessite d'être dépecé et découpé avant d'être offert sur l'autel. Ve nochrim bizman azer reshaim lasotken, et les goyim, aujourd'hui, de notre temps, ont le droit de faire ainsi, d'offrir un sacrifice sur un autel privé, qu'ils ont donc le droit d'ériger pour cela. En tout cas, nous voyons dans cette braïta que les aînés ont continué à effectuer les services jusqu'à l'érection du sanctuaire dans le désert et que le korban ola que les béné Israël ont offert dans le désert avant l'érection du sanctuaire nécessitait d'être dépecé et découpé avant d'être offert sur l'autel. L'Agma répond, ce sujet, à savoir si les aînés ont continué à effectuer le service jusqu'à l'érection du sanctuaire dans le désert, Tanaïhi, est une discussion entre des Tanaïm, des Tania, car il est enseigné dans une braïta qui interprète le pasouk dans Shemot Yudtet. Lorsqu'Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de monter au mont Sinaï pour recevoir la Torah, il a interdit aussi à quiconque de monter sur le mont Sinaï. Le pasouk dit « Vegam ha-kohanim anigashim el Hashem itkadashu » et aussi les kohanim qui habituellement s'approchent d'Hachem pour effectuer les services devront se sanctifier et se garder de monter sur le mont Sinaï. Rabbi Yeshua ben Korcha Omer Zu Prishut Bechorot, c'est un ordre de séparation qui s'adresse aux aînés. Donc, la Torah interdit aux aînés qui habituellement effectuent le service de l'offrande des sacrifices, et ce, jusqu'à l'érection du sanctuaire dans le désert, de monter sur le mont Sinaï, Rebbi Omer, Zou Prishut Nadav Aviou. Cet ordre de séparation s'adresse à Nadav et Aviou. Donc, la Torah s'adresse à Kohanim et non pas aux aînés, pour leur interdire de monter au mont Sinaï. Selon Rebbi, nous pouvons donc déduire que dès que les béné Israël ont reçu la Torah, il leur a été ordonné aussi que ce seront les Kohanim et non pas les aînés qui effectueront le service, et c'est pour cela que la Torah s'adresse à eux. La Gemara demande, Bishlama le mandamarzu prishut nadav aviu, on comprend bien, selon l'avis qui dit que dans le pasouk, dans Shemot Yudtet, cet ordre de séparation s'adresse à nadav et aviu, donc au Kohanim, haynu dirtiv, on comprend bien ce que le pasouk dit dans Vaikra Yud, c'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse à Aaron HaKohen après le décès de ses deux fils Nadav et Aviu, lorsqu'ils sont rentrés dans le sanctuaire. Hu asher diber Hashem lemor bikrova et kadesh. C'est cela qu'Hashem a dit, je serai sanctifié par mes proches. C'est-à-dire, Akosh Baruch Hu avait averti au Kohanim de ne pas s'approcher de l'endroit où se trouve la présence divine, comme sur le mont Sinaï, sans permission. Puisque Nadav et Aviou sont rentrés à l'intérieur du sanctuaire pour offrir de l'encens sans permission, c'est pour cela qu'ils ont été punis. Et c'est donc cela que Moshe Rabbeinu dit à Aaron HaKohen. Voici, c'est justement cela qu'Akadosh Baruch Hu avait dit auparavant. Et là, le mandat marzu prishut bechorot, mais selon l'avis qui dit que le pasouk dans Shemot Yudtet, c'est un ordre de séparation qui s'adresse aux aînés, hecha remiza, où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait allusion à cela, qu'il serait sanctifié par ses proches, pour que Moshe Rabbeinu puisse dire, c'est cela qu'Hachem a dit, je serai sanctifié par mes proches. L'Agma répond, dirtiv, nous l'apprenons du pasouk dans Shemot Kaftet qui dit Venoadti Shama Livne Israël Vinichdash Bichvodi. Et je me présenterai là-bas dans le sanctuaire pour m'adresser au Bnei Israël et je serai sanctifié par mon honneur. Altikre Bichvodi, ne lis pas je serai sanctifié par mon honneur. Et là Bemchubadai, je serai sanctifié par le moyen de ceux qui sont honorés par moi. Autrement dit, par mes proches. Davarze Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe. Cette chose, donc cette phrase, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Velo Yedao, et ne l'a pas réellement compris, Ad Shemetu Bene Aaron, jusqu'à ce que les fils de Aaron, Nadav et Aviou, sont morts, le jour de l'inauguration du sanctuaire. Kivan Shemetu Bene Aaron, lorsque les fils de Aaron sont morts, Amarlo, Moshe Rabbeinu a dit à Aaron, Aaron achi, Aaron mon frère, lometu banecha, ela leagdish shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Tes enfants sont morts uniquement pour sanctifier le nom d'Hachem. Car lorsque les Bnei Israël ont vu qu'HaKadosh Baruch Hu applique la justice dans toute sa rigueur, même avec ses proches, donc qui accomplissent la volonté d'Hachem en général, la crainte d'Hachem augmente, car on se dit que la justice d'HaKadosh Baruch Hu s'appliquera d'autant plus avec rigueur sur ceux qui n'accomplissent pas sa volonté. Kivan she'ada Aaron she'banav yedu'e makomhen, une fois qu'Aaron a réalisé que ses enfants étaient connus d'Hachem, c'est-à-dire ils étaient appréciés par HaKadosh Baruch Hu et il les aimait, Shatak, il s'est tu, Vekibel Sachar, et d'ailleurs a été récompensé pour cela. Chez Nehemar, car le Pasuk dit dans Vaikrayud, Vaidom Aaron, et Aaron s'est tu, la récompense qu'il a eue, c'est que HaKadosh Baruch Hu s'est adressé uniquement à lui pour ordonner l'interdiction d'effectuer le service et de pénétrer dans le sanctuaire après avoir bu du vin. Vechen Bedavid Huomer, et ainsi, à propos de David Ameler, ou plutôt par le moyen de David Ameler, il est dit, il s'agit d'un pasouk dans Tehilim, Lamed Zayin, rédigé par David Ameler, le pasouk dit, Dom l'Hachem vitrolel lo. Sois silencieux vers Hachem, c'est-à-dire, accepte les souffrances qu'Hachem t'envoie en gardant le silence, et attends-le, donc n'attends que lui pour te délivrer de tes souffrances. L'Agma interprète le pasouk de la manière suivante, Afalpi shemapil lecha chalalim chalalim, même si HaKadosh Baruch Hu te fait tomber des cadavres. Autrement dit, même si HaKadosh Baruch Hu te frappe en faisant mourir des gens de ton entourage ou de ta famille, at shtok, toi, tais-toi, garde le silence. Vechen bi Shlomo Omer, et ainsi à propos de Shlomo, donc plutôt par Shlomo Amelech, il est dit, c'est un pasouk dans Kohelet Gimel, Shlomo Amelech dit, et lachashot ve et ledaber. Il y a un moment pour se taire, il y a un moment pour parler. Pa'amim sheshotek ou mekabel sachar al hashtika. Des fois, un homme se tait et reçoit une récompense pour son silence. C'est-à-dire s'il accepte les souffrances qu'HaKadosh Baruch Hu lui envoie en gardant le silence. Pa'amim medaber ou mekabel sachar al hadibur. Des fois, il parle et il reçoit une récompense sur sa parole. C'est-à-dire, comme l'explique le Maharsha, lorsqu'il chante les louanges d'HaKadosh Baruch Hu. Et ce que nous venons de dire correspond aussi à ce qu'a dit Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan. Que veut dire le pasouk dans Tehilim Samechet qui dit Nora Elohim Mimigdashecha? HaKadosh Baruch Hu est terrifiant de son sanctuaire. Il répond Al tikre Mimigdashecha Ela Mimukudashecha. Ne lis pas de ton sanctuaire, mais plutôt de ceux qui sont sanctifiés par toi. Lorsqu'HaKadosh Baruch Hu applique la justice dans toute sa rigueur sur ses saints, mitiare ou mitale ou mithalel, il est craint, c'est-à-dire sa crainte augmente, car on se rend compte que la justice peut être appliquée même chez ses proches, à plus forte raison sur ceux qui sont loin de lui, et il est grandi et il est loué, car lorsque les tzadikim sont punis dans ce monde ici-bas, ils sont lavés de tous les péchés qu'ils auraient pu commettre, et ainsi, ils méritent leur part dans le monde futur, sans avoir à subir les supplices de l'enfer. En tout cas, nous avons répondu à la question que concernant le sujet, à savoir si les aînés ont effectué le service jusqu'à l'érection du sanctuaire dans le désert, ou jusqu'à ce que les Bnei Israël ont reçu la Torah, nous avons vu que c'est une discussion entre les Tanaïm. Et là, cependant, Kashia Ola, la question concernant le Korban Ola reste. En effet, Rav Huna a dit que les Korban Ola qui ont été sacrifiés avant l'érection du temple ne nécessitaient pas d'être dépecés et d'être découpés avant d'être offerts sur l'autel, tandis que dans la Braïta, il est enseigné clairement qu'ils doivent être dépecés et découpés avant d'être offerts sur l'autel. L'Agma répond, Tre Tanaïhi, il y a aussi deux Tanaïm qui discutent à ce sujet. De Tanya, car il est enseigné dans une Braïta, Rabbi Ishmael Omer, Klalot Ne'emru Besinai. Les règles générales ont été dites au Mont Sinaï, ou Pratot Be'ol Moed, tandis que les détails ont été donnés par la suite dans le sanctuaire. Donc, lorsque la Torah a été donnée sur le Mont Sinaï, il a été dit qu'il faut offrir des sacrifices sans les détails. Par exemple, sans le fait que le sacrifice doit être dépecé et découpé avant d'être offert sur l'autel. Ces détails ont été donnés par la suite lorsque le sanctuaire a été érigé dans le désert. Rabbi Akiva Omer. Klalot ou Pratot Nehemru Besinai, soit les règles générales, soit les détails ont été donnés au Mont Sinaï, Venishnu Be'ol Moed, et ont été répétés au sanctuaire, Venishtalchou Bervot Moav, et ont été répétés une troisième fois dans les plaines de Moav, avant que le Bnei Israël rentre en Eretz Israël. Donc selon Rabbi Akiva, à l'origine, lorsque HaKadosh Baruch Hu a ordonné d'offrir des sacrifices, il leur a été dit aussi que ces sacrifices doivent être dépecés et découpés avant d'être offerts sur l'autel. Nous avons fini ici le shiur de Masechet Zvachim Daf Kuf Tet Vav. Nous commençons le shiur de Masechet Zvachim Daf Kuf Tet Zayin. Nous commençons Daf Kuf Tet Vav Amud Bet au milieu de la troisième ligne du bas de la page. La Gemara va reprendre point par point la braïta qui a été ramenée dans le Daf précédent concernant la nature et les lois des sacrifices que les Bnei Israël ont offerts avant l'érection du sanctuaire dans le désert. En la Gemara dit Amarmar, la Gemara donc reprend le passage de la braïta qui dit Hakol Ksherim Lakriv, n'importe quel animal est valable pour l'offrande des sacrifices. Et cela donc, comme nous l'avons dit, avant l'érection du sanctuaire dans le désert. La Gemara demande Mena Nemile, d'où le sait-on? La Gemara répond Amar Avuna de Amakra, car le pasouk dit dans Bereshit Chet, lorsque Noach est sorti de l'arche après le déluge, Vayiven Noach Mizbeach Lachem, Vayikach Mikol Habema Hateora, Mikol Of Hatahor. Et Noach a construit un autel pour Hachem, il a pris de tout animal pur et de tout oiseau pur et il les a offerts comme sacrifice. Alors, Behema Kemashmao, le terme Behema animal veut dire comme cela s'entend, c'est-à-dire les animaux domestiques, comme les gros et le menu bétail. Chaya Bichlal Behema, les bêtes sauvages sont inclus dans le terme général de Behema. Cela nous l'apprenons dans le Passouk dans Dvarim Yuddalet, où le Passouk dit « Voici la Behema, l'animal que vous aurez le droit de manger. » Et le Passouk poursuit en énumérant les bêtes sauvages, comme le cerf, la gazelle, etc. Nous apprenons de là donc que le terme Behema est un terme général qui inclut aussi les animaux non domestiques.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.